Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Et on se retrouve dans un tout petit instant pour revenir sur ces un an de Covid. Un an, il y a tout juste un an, nous nous apprêtions à être confinés. On va en parler avec Benoît Chaumont qui a réalisé un documentaire à ne pas manquer ce soir sur France 5. Retour sur cette crise, retour sur les origines du Covid. C'est à suivre dans un tout petit instant. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gangemann.
Bonjour Valérie.
Bonjour Benoît Chaumont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur et vous avez réalisé justement ce documentaire qu'on va pouvoir voir ce soir sur France 5 dans le cadre de l'émission Le Monde en Face à 20h50. Covid-19 aux origines d'une crise mondiale. On va y revenir. Je rappelais qu'effectivement, et nous en parlons aujourd'hui toute la journée sur Sud Radio, il y a un an, le président de la République annonçait que nous allions être reconfinés. Vous revenez sur ce virus, sur cette course folle. Et je vous disais juste avant que vous n'arriviez que ça donnait le tournis de revoir toutes ces images. On va en reparler dans un instant avec vous, Gilles. La question du jour.
Eh bien, la question du jour, elle est par rapport à hier soir. Vous savez qu'hier soir, TF1 a diffusé un téléfilm sur l'affaire Fourniret. Alors, le fils est intervenu. Il y a eu pas mal de politique, de polémiques. Et donc, on a voulu savoir que maintenant qu'il a été diffusé et que vous l'avez peut-être regardé, enfin quand je
ça
dis peut-être...
Ça n'a pas été un carton.
4,5 millions, c'est pas mal.
Ben oui, mais ils ont été battus en ménagère, comme on dit, par M6. Et 4,5 millions, je pense que TF1 attendait beaucoup mieux de ce
téléfilm. Un plus gros carton de ce téléfilm. Ça a battu les rivières pour.
Oui, mais pas de beaucoup non plus. Donc ce n'est pas une grande réussite, c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà.
Oui à 60%, non à 40%.
C'est-à-dire
pour l'instant, les gens pensent qu'ils ont eu raison de diffuser un téléfilm sur l'affaire Fourniret. Vous pouvez réagir sur le compte Twitter de Sud Radio et puis allez nous donner votre opinion et voter.
Allez, on passe au zapping ?
C'est une bonne idée.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Alors Valérie, on va en parler avec notre invité, Benoît Chaumont. Cela fait donc un an que Emmanuel Macron a décidé le confinement. Et je vais vous ramener au 19 février 2020, où on découvrait le premier malade français. Le médecin Philippe Pinello a été celui qui a tenté de le sauver, de le soigner. C'était un sujet BFM.
C'était le 19 février 2020. Cette consultation, Philippe Pinello s'en souvient comme si c'était hier. Ce jour-là, il reçoit pour la seconde fois en une semaine le professeur de techno de Crépy-en-Valois. Le moment est grave.
Il y a quelque chose qui me fait dire que c'est pas bon, quoi. Il avait perdu 8 kilos en une semaine.
L'enseignant décède quelques jours plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Au temps sous H1N1, on avait reçu longtemps avant des masques, des gants, des lunettes, des surlunettes. Là, on n'avait rien. On se dit, mince, de toute façon, on a rien su, donc ça doit pas être si terrible que ça.
Et dans le documentaire, Benoît, vous en parlez de ceux qui vont amener le virus en France, avec entre autres un médecin qui se sait malade et qui prend l'avion quand même sans dire qu'il est malade.
C'était pour le SRAS hein, en 2003.
Ouais,
2003
oui,
qui avait caché en effet ses symptômes et qui était arrivé en France. Et ce qu'on raconte dans le film, en effet, c'est que à l'époque, le savoir-faire français en matière d'épidémie a été mis à l'épreuve parce qu'ils ont mis 3 jours, je crois, à retrouver tous les passagers qui étaient dans l'avion.
Incroyable. Il est 16h, Valérie, quand Emmanuel Macron annonce la suspension du vaccin d'AstraZeneca, à la grande surprise de tout le monde, mais surtout à la grande surprise des pharmaciens qui venaient juste d'être autorisés à donner le vaccin AstraZeneca. Une annonce qui a choqué Philippe Besset, c'est le président de la Fédération syndicale pharmaceutique de France.
C'est parfaitement insupportable d'apprendre par la télévision, en pleine journée de vaccination, qu'on n'a plus le droit de vacciner. C'est-à-dire, c'est en milieu de flacon qu'on doit interrompre la vaccination pour des allégations de problèmes qui sont survenus et qui ne sont pas prouvés. Donc c'est très 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 étrange comme méthode et comme méthodologie.
Et j'imagine que vous allez parler de la suspension.
On va évidemment en reparler tout à l'heure avec les débatteurs.
Et donc l'Italie, Valérie, l'Espagne, l'Allemagne, tous ont arrêté le vaccin AstraZeneca, sauf, devinez qui ?
La Belgique.
Bravo madame. Sauf la Belgique qui s'y refuse. Frank van der Broek, le ministre fédéral de la Santé, est venu s'expliquer. Là, c'est sur la télé belge, RTL TVI.
La sécurité du vaccin est ultra importante. Arrêter cette campagne de vaccination en sachant qu'il y a tellement de circulation du virus, ça serait irresponsable parce que c'est une protection sûre et efficace contre cette maladie. Il faut savoir que pas mal de gens qui meurent de la Covid meurent à cause d'une thrombose.
Ça veut dire que les autres pays, nos voisins français, allemands, se trompe complètement de politique ? Non, ça, ils ont pris la mauvaise décision ?
Non, ça, je ne dis pas.
Non, ça, je ne dis pas. Je suis diplomatique. Vous avez vu comment c'est un politicien ? Ouais. Non, ça, il ne dit pas, mais il le pense quand même. Hein. Ouais. La cérémonie, oh là là, glamour des Césars, n'arrête pas de défrayer la chronique. Et hier, le comédien Thierry Lhermitte, dans C'est à vous, a été choqué que de nombreux thèmes n'aient pas été abordés au cours de cette cérémonie.
Je regrette parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, beaucoup de malheurs du monde qui ont été abordés, mais je regrette qu'on n'ait pas abordé les Rohingyas, le Yémen, la Syrie, les élections américaines avec l'invasion du Capitole, Navalny, l'endométriose, pas un mot, le bien-être animal, la chasse à cour, rien du tout, l'Arménie, la stigmatisation des anorexiques dans le milieu du sumo japonais,
la grossophobie
dans le milieu des jockeys, c'est horrible, horrible. Le remboursement des soins dentaires, l'excision et les GAFAM, pas un mot là-dessus.
Alors. C'était ironique, évidemment.
Oui, sans doute.
Mais oui, je précise. Ouais. Alors, vous en vouliez du glamour, de la paillette, Valérie, de la voix chaude. Eh bien, c'est mon petit cadeau, rien que pour vous ce matin. C'est le nouveau titre d'Amanda Lear qui a été présenté sur BFM. Et oui, elle sort un nouvel album, Amanda.
Ah bon ?
Ça s'appelle More.
Longer than always is a long, long time.
Elle n'avait pas déjà chanté, ça?
Bon, ça ressemble à du Amanda Lear.
Ouais, ouais.
Voulu que je vous révèle un secret, notre réalisateur, il rêve de danser là-dessus, Mathilde.
C'est vrai
Mais oui,
On lui fera rencontrer Amanda Lear,
notre réalisateur.
Allez, beaucoup plus sérieusement, le monde en face, ce soir sur France 5, Covid-19, aux origines d'une crise mondiale. Benoît Chaumont, c'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Vous démarrez, il y a tout juste un an, même un petit peu avant. Et on était loin d'imaginer, et c'est un petit peu ce qu'on retient de ce documentaire, ce qui allait se passer.
Oui, en fait, dans le film, on revient sur les 6 premiers mois de cette crise. Donc, de décembre 2019 à, grosso modo, la levée des confinements, où tout le monde espérait que ça allait, c'était derrière nous. Bah, c'est raté. Mais oui, on commence en décembre 2019, en fait, où certains Zappy Few scientifiques reçoivent dans leur mail, une alerte qui parle d'une pneumopathie étrange. Donc, c'est juste un bulletin d'alerte, en fait, où rien de plus. Et aujourd'hui, on sait où on en est.
Mais c'est assez saisissant de regarder, de revoir ces images à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui et de voir comment personne, au départ, ne le prenait très sérieusement. La Chine, c'était très loin. Et tous ces experts, entre guillemets, reconnaissent leurs erreurs.
Alors, la Chine, c'était très loin. Et puis, la Chine, c'est quand même une dictature aussi, qui nous a quand même pas donné tous les chiffres dans le détail. Puis ensuite, c'est vrai que on a eu du mal à comprendre les scientifiques, les premiers, les médecins. Souvenez-vous, au départ, on parlait d'une grippette. Mais bon, c'était l'état des données scientifiques de l'époque, en fait.
Mais dans votre documentaire, quand même, il y a des petits signaux. Quand on voit que les Chinois construisent, mais alors très très vite, des hôpitaux en urgence. On se doute bien que c'est pas pour mettre 12 malades, quand même.
C'est vrai que ça, c'est curieux. La question, c'est oui, pourquoi les services de renseignement français, par exemple, se sont pas dit oui, c'est les chiffres qui nous donnent, ce sont ceux-là, mais à côté, ils viennent de construire en deux jours un hôpital de campagne.
Ils auraient pu dire qu'il y avait quelque chose derrière, mais on n'y croyait pas en fait.
Parce qu'on
y a une sorte de déni. Est-ce que c'est de l'arrogance ou de l'optimisme? C'est vrai que c'est jamais arrivé pour l'instant. On n'a jamais eu de grosses épidémies en Occident.
Alors, il y a eu la grippe espagnole et vous en parlez dans le documentaire. On va écouter un extrait.
La grippe espagnole se transforme en pandémie en quelques mois. Les systèmes hospitaliers du monde entier sont submergés. Les États prennent des mesures. Les écoles, les églises, les théâtres, les bars ferment. À l'époque, les gestes barrières sont aussi les mêmes. Cet homme, par exemple, refuse de serrer la main pour dire bonjour. Distanciation sociale oblige. Et le masque s'impose dans la vie quotidienne, avec la même pénurie et les mêmes questions qu'aujourd'hui.
C'est assez frappant, hein, ce parallèle qui est fait avec la grippe espagnole.
Bah, même pour tout vous dire, cette image de cet homme, on ne la voit pas, hein,
on verra ce soir,
cette image de cet homme qui refuse de serrer la main, alors qu'on est en 1918, c'est un siècle. C'est saisissant de voir le parallèle entre la pandémie de l'époque et celle d'aujourd'hui, et les similitudes, donc avec les mêmes gestes barrières.
Et puis les théâtres, tout a fermé, les théâtres, les magasins, enfin tout a fermé. à ce moment-là comme, aussi. Comme aujourd'hui.
En fait, quand vous y pensez, c'est la seule solution pour lutter contre une pandémie, c'est de s'enfermer chez soi. Ça a toujours été. Hein.
Ouais, et vous évoquez aussi dans ce documentaire, il y a énormément d'experts qui parlent. Il y a des médecins, il y a William Dabb, il y a plein de gens. Il y a aussi Christine Ockrent et d'autres géopoliticiens, je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui reviennent sur justement cet aspect politique, géopolitique, qui est très très fort aussi. On parle souvent que de l'aspect sanitaire, mais il y a cet aspect-là qui est très important aussi.
Oui, en effet, on a essayé d'avoir une lecture géopolitique et on a essayé d'analyser l'impact géopolitique que ça a pu avoir sur la planète, parce que c'est le cas.
Bah, bien sûr.
Avec une mondialisation remise en question, avec l'économie à l'arrêt pendant plusieurs mois, avec ce choc, en effet, entre la Chine et les États-Unis, avec le retour des États-nations, c'est le retour des frontières. Ouais. Donc oui, il y a une analyse géopolitique.
Qui est effectivement là et qui crée... qui montre aussi les rapports entre la Chine et le reste du monde. Qui
oui, avec
va
la
être
Chine qui a profité. Alors, ouais. Bon, ça vient de chez eux, hein, a priori. Mais ils ont essayé de se racheter une image quand même au pic de la crise avec ces masques, avec ce qu'on a appelé la diplomatie du masque.
Ouais.
C'est-à-dire en envoyant au monde entier des stocks de masques.
En Afrique, on voit.
En Afrique, notamment, pour dire, regardez, on est là et on vient vous aider. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, en réalisant ce documentaire
En fait, les images, c'est 2 mois de montage, hein, ce genre de documentaire.
Oui,
donc les images, je les ai vues et revues. Le film, j'ai dû le voir 5 fois. Et à chaque fois que je revois ces images de confinement, j'ai la chair de poule.
C'est exactement le sentiment. Je vous ai dit, moi, en disant ça donne le tournis. C'est vrai qu'on est complètement
sidéré.
Voilà, le mot est sidéré par ce qui s'est passé et on prend conscience. On en avait peut-être un peu pris conscience au quotidien, mais que c'est un événement historique. C'est-à-dire que ce film le positionne comme un film d'histoire, en quelque sorte.
Est-ce qu'il y a...
Alors, peut-être répondre à ça. C'est-à-dire on se rend compte que c'est un événement historique.
C'est du jamais vu. C'est sûr qu'on n'était pas à manque de superlatifs dans ce documentaire.
Ouais. C'est vrai.
La moitié de l'humanité est à l'arrêt, enfin enfermée chez elle. Vous vous en rendez compte?
Ouais.
On a d'abord fermé les frontières, donc c'était les pays qui étaient fermés. Puis ensuite, notre espace de vie et de liberté s'est réduit à 4 murs chez nous, quoi. C'est absolument.
Est-ce qu'on se dit qu'on aurait pu faire autrement?
C'est toujours facile de refaire le match après, c'est vrai. Mais on aurait peut-être pu être mieux préparé.
Ouais.
Regardez la Corée du Sud, pareil, j'en parle dans le documentaire. Ils étaient bien mieux préparés que nous. Et d'ailleurs, quand le monde se confine, c'est pas le cas. Il y a que les écoles qui sont fermées en mars en Corée du Sud. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des méthodes ultra agressives envers les virus qu'aurait pas marché chez nous, d'ailleurs. Je pense, on a essayé avec l'application Stop Covid, ça n'a pas marché. En Corée du Sud, c'est non seulement Stop Covid, mais ils recoupent les informations de vos cartes bancaires, de caméras de vidéosurveillance, pour retrouver les cas contacts qui pourraient être contaminés. Donc cette technique qu'on a mis 1 an, nous, à mettre en place du tracé, dépisté, isolé, eux, ils l'ont mise en place en 3 semaines et ça a tout de suite fonctionné. Ouais.
Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui ont refusé, parce qu'il n'y a aucun ministre de la Santé dans votre documentaire?
Ils ont refusé, tous. Même Roselyne Bachelot.
Elle a le bon rôle dans cette histoire maintenant. Elle est par solidarité gouvernementale, elle n'a pas voulu, elle a préféré ne pas nous répondre. J'ai eu Agnès Buzyn au téléphone au début du documentaire, qui m'avait dit oui, elle était prête à nous parler, et puis finalement, le lendemain, elle m'a rappelé en me disant j'ai eu mon avocat et je préfère pas le faire puisqu'ils ont des procès.
Oui, mais vous pouviez lui donner un droit de regard sur le doc en interview.
Vous pouvez dire quoi, un droit de regard? Vous êtes journaliste ou quoi?
Non, vous pouvez le visionner. Certains, on leur propose de.
Mais c'est pas un droit de regard, ça veut rien dire, un droit de regard. Quand on est journaliste, on donne pas un droit de regard à un politique.
Ça arrive dans plein la moitié des documentaires.
Non, on arrête ça parce que c'est pas possible.
Mais bien sûr que si.
Mais vous plaisantez.
Mais à qui a pas. Il y a des droits de regard, heureusement. Les gens demandent d'avoir un droit de regard, ils regardent.
Si elle avait accepté l'interview.
Oui, bien sûr.
Ce n'est pas des méthodes de journaliste. Enfin, je pense pas. Non.
Ça fait longtemps
que
ça a changé.
Mais bon, toujours est-il que les politiques n'ont pas souhaité répondre.
Non.
Et
non,
c'était
non.
Votre souhait ou pas
Ah non, je veux dire, ouais. Ben non. La
non, première, non, mais il n'y a aucun politique, pratiquement, je crois. Si...
Oui, mais on a essayé tout le monde. Ouais. On a lancé des invitations à l'ensemble du gouvernement, enfin, en tout cas ceux qui étaient
concernés.
Édouard Philippe, évidemment. Sibeth Ndiaye, Bachelot, Agnès Buzyn, comme je viens de vous dire. Et puis, il n'y a que Blanquer qui a accepté.
Oui. Il n'y a que Blanquer, effectivement.
Ça veut dire qu'ils n'assument pas cette séquence-là ?
Ça veut dire qu'ils préfèrent ne pas revenir dessus dans ce genre de format, un documentaire qui a vocation plutôt historique, en effet, et qu'ils préfèrent pas se poser trois quarts d'heure, une heure en interview. Bon, après, ils ont leur raison.
On ne sait toujours pas vraiment d'où vient le virus. Enfin, il y a des hypothèses.
Non, c'est vrai.
C'est d'ailleurs pour ça
que je ne rentre pas trop dans les détails. Ouais. Mes confrères d'Envoyé spécial l'ont très bien fait la semaine dernière avec une enquête vraiment pas mal qui relance un petit peu la piste du laboratoire P4. Mais je n'ai pas essayé de savoir si c'était pangolin, chauve-souris ou laboratoire P4.
Alors, il faut dire, Valérie, dans ce documentaire de ce soir, il y a deux témoignages qui m'ont marqué. Ce sont les témoignages des correspondants d'Alban Micosi pour l'Italie et le correspondant chinois de France 2 qui, lui, c'est incroyable ce qu'il raconte et ce qu'il a vécu.
Ce qu'il a vécu, il est resté enfermé, en fait.
En plus, il le raconte très bien. Donc,
très bien.
Il est incroyable.
Ouais. Lui, il parle le 22 janvier de Pékin, puisqu'il habite à Pékin, il est correspondant à Pékin pour France Télévisions. Il va couvrir le début d'une épidémie à ce moment-là. Il va à Wuhan et il va rester bloqué 4 mois, puisqu'il va être confiné comme les habitants de Wuhan pendant plusieurs mois. Il va pouvoir continuer à faire son travail, mais oui, et ces images, les images qu'il ramène sont absolument incroyables aussi.
Ouais.
Les images du confinement à Wuhan sont effrayantes. Ouais.
Et puis vous expliquez que Wuhan est quand même un cœur où on fabrique les voitures.
Alors c'est ça, c'est que...
Qui explique comment le virus a pu circuler.
Dès le départ, en fait, il y a une lecture géopolitique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé dans une dictature et dans une ville qui se trouve être au cœur de la mondialisation et de la globalisation. Un hub, c'est l'un des plus gros aéroports de Chine et qui... En effet, avant le confinement chinois, de Wuhan, il y a des centaines d'avions qui décollent tous les jours de Wuhan pour desservir le monde entier. Ouais. Donc potentiellement avec des malades qui atterrissent aux États-Unis, en Europe. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Oui,
et puis
dans la grippe espagnole, c'est les soldats et les bateaux qui ramènent la grippe espagnole en France.
Alors voilà, c'est plus long en bateau qu'en avion.
Oui.
En revanche, vous mettez un malade, j'imagine. Imagine dans un navire qui part pour l'Europe pendant 3 semaines, ça fait plusieurs dizaines de malades.
Au début, il y a eu les croisières qui ont été bloquées, beaucoup de choses.
Oui.
Et bon, vous dites que la Grèce espagnole, ça a duré 3 ans, donc c'est pas très rassurant pour la Covid. Surtout si on arrête la vaccination.
Ouais, ils n'ont pas trouvé de vaccin.
Oui, ils n'ont pas trouvé de vaccin, voilà. Mais enfin là, je pense qu'on a donné un bon coup de massue à la confiance vaccinale. On va en reparler. Il y a un débat derrière, animé par Marina Carrère-Dancausse.
Oui.
Qui sera en plateau, vous le savez ou pas ?
Non, vous ne le savez pas.
Vous ne le savez pas, d'accord, bonne question. Mais ce n'est pas grave. Donc il y a un débat derrière, j'imagine qu'elle va revenir sur les images que vous montrez dans le documentaire. Encore une fois, on a l'impression de tout savoir et quand on se met devant ce doc qu'on a eu la chance de pouvoir visionner en avance, on est happé par les images, on est happé par Et ça m'a fait un peu l'impression, quand j'étais en cours d'histoire, en quatrième ou en troisième, où on nous parlait de la Seconde Guerre mondiale et où on se disait, mais comment on n'a pas réagi avant? Comment on n'a pas fait ça? C'est-à-dire que de se dire qu'il y a quand même eu un certain nombre d'erreurs. Vous revenez sur la crise des masques, la pénurie de masques, les contradictions des uns et des autres. Mais c'est vrai que c'est un événement qui était totalement imprévisible et auquel on n'était pas préparé.
Et les avertissements aussi.
Oui, absolument.
C'est que... plusieurs personnalités civiles d'abord nous ont averti, notamment Bill Gates dans une conférence en 2015 2015 dans une TED, dans une conférence TED, où il dit que la prochaine catastrophe mondiale, ce sera une pandémie, ce sera pas une crise nucléaire, mais une pandémie. Mmh. Mais bon, c'était pas non plus, enfin, c'est pas son domaine, lui, la science. Mais il a lu des rapports qui existent et qui ont été sur la table à l'Élysée des précédents présidents de la République. Ça s'appelle des livres blancs et qui annonçaient qu'un des risques pour le monde, c'était une pandémie, quoi.
Ouais. J'arrive pas, je vous pose la question à vous et à Valérie, j'arrive pas, en regardant le documentaire, je me disais, est-ce que cette impression de un an dont on va parler toute la journée, est-ce que ça me semble proche ou est-ce que ça me semble loin? À la fois, ça me semble hier et à la fois, ça me semble tellement long, un an.
Ouais, je suis d'accord. C'est assez curieux.
C'est assez curieux comme sentiment.
Vous n'êtes pas mécontent. Enfin, en tout cas, c'est intéressant de revoir ces images. C'est juste que depuis un an, il s'est passé tellement de choses.
D'un autre côté, le confinement, on s'en rappelle comme si c'était hier.
Et puis, c'est pas le même que les derniers. Le premier était quand même extraordinaire.
Le Monde en face ce soir, 20h50. Ne manquez pas ce documentaire Covid-19 aux origines d'une crise mondiale. Ça remet les choses en place. Vous avez raison, ça donne la chair de poule quand on voit ces images, avec beaucoup de témoignages et puis cette façon de le replacer aussi dans un contexte géopolitique, cette crise entre les États-Unis et la Chine. C'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup, Benoît Chaumont, d'être venu ce matin pour nous raconter ce documentaire. Que j'espère on vous a donné l'envie de regarder ce soir. Nous, on se retrouve dans un instant. On va continuer à parler de la Covid parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont cherché à innover, qui ont essayé de trouver des solutions. Et là, c'est une entreprise de Nantes qui a mis au point un purificateur d'air très particulier et très prometteur. On va en parler dans un instant.
Vous m'en commandez un alors.
Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.
Merci pour votre indépendance.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'œil de l'expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, l'expert aujourd'hui, c'est Thierry Launois. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien, Valérie.
Bon, bonjour. Vous êtes le PDG d'une société nantaise, JVD, qui est spécialisée dans tout ce qui est conditionnement de l'air, c'est cela ?
En fait, on est une société spécialiste des équipements d'hygiène depuis une trentaine d'années.
Équipements d'hygiène. Alors, moi, j'ai été alertée par le docteur Jean-Paul Hamon, qui a regretté, c'était lundi sur LCI, qu'un dispositif que vous avez mis au point pour purifier l'air n'ait pas retenu l'attention du gouvernement. Donc, ça m'a intriguée. Et donc, Jean-Paul Hamon m'a donné vos coordonnées pour comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Parce que quand on pense purificateur d'air, on voit des petits machins qui sont comme des petits ventilateurs transparents. Et on se dit, mais comment ça peut être efficace. Donc, racontez-nous un petit peu cet appareil que vous avez mis au point.
Alors, il s'agit effectivement d'un purificateur d'air qui dépollue l'air intérieur des polluants physiques, tels que les particules fines, les PM10, 2,5 jusqu'à PM1, donc les plus petites qui s'imitent dans le sang, le système endocrinien. Ça dépollue l'air des pollutions chimiques. Toutes les pollutions chimiques, les composés organiques volatiles que vous allez trouver dans une pièce qui vient des moquettes, des papiers peints, des cols de meubles, etc., ou tout simplement aussi des parfums qui sont portés. Et puis, les contaminants, les pollutions en fait micro-organiques que sont les virus et les bactéries. Donc, ce type de produit garantit une dépollution de l'air on a développé un procédé original. Ouais. Qui est en train d'arriver sur le marché.
D'accord. Vous êtes les seuls à travailler. Enfin, ce matin, j'ai vu que le président de la région Rhône-Alpes avait commandé des diffuseurs. Décidément, ce matin, des purificateurs d'air. Comment ça se passe et qui peut mettre quoi sur le marché?
Alors, on n'est pas les seuls. C'est un marché un peu confus actuellement, parce que depuis le début de la pandémie, on a vu arriver plein de produits de Chine qui racontent l'histoire de la dépollution de l'air. Mais indépendamment de ça, il y a de toute façon différentes solutions. L'originalité du système qu'on a développé ces trois dernières années chez JVD, c'est qu'on n'a pas besoin de remplacer des filtres tous les 3 mois. Ou 2 à 3 mois, qui sont aujourd'hui l'essentiel des systèmes que vous trouvez sur le marché, c'est ce qu'on appelle les systèmes de filtration, qui vont faire en fait comme des grands aspirateurs qui vont aspirer sur le filtre toutes les cochonneries de l'air, en l'occurrence virus et bactéries par exemple. Et le problème, c'est que vous créez des foyers de contamination très forts sur ces filtres, qu'en fait, il y a un phénomène de relargage qui s'opère au bout d'un certain temps. En général, on estime entre 2 et 3 mois selon les pollutions qui y sont rassemblées. Et ensuite, ça pose le problème du recyclage de ces filtres et notamment de leur manipulation par des individus, que ce soit des consommateurs ou des agents de propreté. Et en fait, notre système est un système qui s'auto-entretient et qui combine différentes technologies qui, associées les unes entre elles, garantissent une performance incroyable et neutralisent les effets indésirables de chacune d'entre elles. Et en fait, vous avez juste à changer ce qu'on appelle le cœur de produit tous les 3 ans. Ouais. Et notre système est réparable, on garantit une réparabilité pendant 10 ans.
Mais comment vous pouvez être sûr est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'études? Vous disiez que c'est un marché un petit peu compliqué. Qui contrôle? Il y a des normes AFNOR, AFNOR, j'y connais pas grand-chose, mais comment vous êtes certifié? Vous m'entendez?
Je vous ai perdu un instant, mais je crois avoir...
Oui, je disais comment est-ce que vous allez garantir ce que vous avancez? Est-ce qu'il y a des contrôles? Vous faites vos études, mais est-ce qu'il y a des contrôles, des normes européennes, des normes qui garantissent ce que vous avancez?
Oui, alors en fait, il y a un cadre normatif qui encadre à peu près les choses. La norme, selon nous, la plus aboutie, c'est celle de l'AFNOR, NFK.
C'est une norme, d'accord.
Qui est une norme française qui est en train de servir de référence à l'échelle européenne. Et nous, on a effectivement. Alors, le problème des normes, déjà, c'est que la plupart des équipements ne passent pas les normes. Oui. Et la plupart des produits que vous trouvez sur le marché, en fait, ne font l'objet d'aucune étude par des laboratoires indépendants, y compris des grands fabricants comme Dyson. Et après, le problème des tests que vous pouvez faire en laboratoire, c'est que ça ne correspond pas toujours aux conditions réelles de vie, la façon dont l'air vit dans un espace, comment les gens vivent dans cet espace. peut avoir une incidence naturellement sur la performance d'un produit. Ce qui est important, c'est bien sûr de faire des tests en laboratoire, dans des conditions avec des outils de mesure très performants, et puis aussi de faire des tests qu'on appelle in situ dans le monde réel, et de suivre l'évolution de ces performances dans le temps.
D'accord.
Alors, nous, c'est ce qu'on emploie à faire. Je pense que nous, un de nos objectifs, c'est de renforcer le cadre réglementaire et de contribuer en tant qu'industriel à ce qu'il y ait justement des tests qui soient organisés dans la durée de la vie d'un produit sur le terrain pour que des produits qui seraient performants au début de leur histoire, les premiers mois, le soient encore 2 ans plus tard.
Ouais.
Et que ce qui marche dans un laboratoire, dans une pièce qui fait peut-être 5 mètres carrés, marche aussi dans un espace où des gens rentrent et sortent.
Et c'est le cas de ce petit appareil. Vous m'avez envoyé le dossier de presse que vous envisagez. Vous êtes une société qui vendait en principe aux sociétés, mais ce purificateur d'air, vous avez l'intention de le vendre également aux particuliers. Vous dites donc que ça permet de combattre tout ce qui est allergène, polluant de l'air. Vous avez évoqué virus, bactéries. Et quand je vous ai eu au téléphone pour préparer l'émission, je vous ai dit mais ok les bactéries, mais les virus, vous êtes sûr que ça peut tuer, ça peut éliminer les virus? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je vous confirme.
Confirme. Mais vous m'avez dit qu'un virus c'était plus gros qu'une bactérie, c'est ça?
Non, en fait, c'est plus petit qu'une bactérie, ouais. C'est moins complexe à détruire qu'une bactérie.
C'est
c'est-à-dire que, en fait, il est plus difficile de détruire des moisissures et des bactéries qu'un virus.
Mmh.
Alors, en plus, les virus ont une durée de vie dans l'air qui va dépendre, en fait, de la nature du virus. Mais, en fait, en ayant l'assurance de détruire des bactéries, on détruit aussi les virus. Et en fait, nous, on a une expérience de notre technologie sur un des les virus les plus complexes à détruire, qui sont, par exemple, l'aspergillus niger ou des staphylocoques,
ouais,
qu'on arrive à détruire avec notre technologie. Donc, le Covid sera détruit sans aucune difficulté s'il est aéroporté dans la pièce où notre produit se trouve.
Vous dites, nous passons 80% de notre temps à l'intérieur. L'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et il y aurait 20 000 décès prématurés par an en France à cause des polluants. Donc la question, c'est celle du docteur Hamon, c'est comment se fait-il que les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à votre appareil qui semble effectivement assez prometteur? Et vous avez fait des tests, vous avez la certitude que ça peut dépolluer l'air, que ça peut vaincre le virus. Comment se fait-il que l'État ne s'intéresse pas à votre produit? Deuxième question, est-ce que les théâtres, les restaurants peuvent être intéressés par ce type d'appareil?
Je vais répondre par la question.
Oui. Sur les pouvoirs publics.
Alors déjà, le plus simple, c'est effectivement, ça peut intéresser les restaurants, les lieux qui accueillent du public, les cinémas, les musées et autres lieux qui nous manquent tant depuis bientôt un an. Ça, c'est une évidence et ça fonctionne déjà comme ça dans d'autres pays à l'étranger. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement n'y emploie pas plus d'énergie? Je pense que c'est un sujet politique qui est peu évident. D'abord, encore une fois, il y a une certaine confusion actuellement sur le marché avec tous les produits que vous pouvez trouver, y compris dans des rayons de supermarché.
Oui, type donc, Dyson, pour ne pas les citer, qui sont du recyclage d'air, en fait. Ça n'élimine pas les bactéries.
C'est plutôt un produit qui est assez performant, qui pose le problème du filtre
qu'il
faut remplacer également et qui, en général, n'est pas remplacé par les utilisateurs. Ça, c'est un vrai problème. Mais le produit est loin d'être mauvais, au contraire. C'est son utilisation qui pose problème. Le sujet, c'est que, en fait, l'État a certainement envie de contrôler un peu ce qui se passe dans ce marché confus. Et puis, après, je pense que, profondément, ça doit être compliqué pour un pouvoir public d'imaginer qu'il y ait des endroits où la qualité de l'air est bon, on est préservé. En fait, je pense qu'elle est la question de l'équité des citoyens devant l'air qu'ils respirent. Et donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'État se doit de sponsoriser ces équipements pour éviter que des lieux riches, entre guillemets, puissent offrir une qualité de l'air meilleure à ceux qui n'en ont pas les moyens. Et du coup, ça devient des investissements colossaux. Donc, je pense que ce n'est pas un sujet simple pour le gouvernement. Nous, on a été appelés par des conseillers ministre, des gens qui travaillent dans son entourage. Ils ont manifesté une forme d'intérêt, mais la question, c'est sous quelle forme vont-ils s'engager. On voit que la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec M. Wauquiez, a engagé des investissements significatifs, un peu dans la continuité qui a été faite à l'étranger, notamment à Berlin. Et on pense que d'autres régions suivront, et j'espère que l'État finira par aussi mettre en place des moyens pour améliorer la qualité de l'air. Alors, pendant le Covid, c'est une évidence, mais vous avez cité des chiffres.
Oui, sur la qualité de l'air, au-delà du Covid.
Voilà, exactement. C'est qu'on respire en tant qu'être humain 15 000 litres d'air par jour. Et ces causes, et l'ANSES, comme l'OMS, comme des universités comme Harvard, ont publié des tas d'études très intéressantes qui démontrent l'impact économique et médical
de la qualité de l'air. Et votre appareil dans votre solution Air Origins, vous pensez pouvoir la commercialiser quand pour le grand public?
Alors, fin mars, on démarre. Alors aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de produits qui nous servent à nos tests en situation réelle. Et notre usine de Nantes va lancer les premières fabrications en série à partir du 29 mars. C'est le moment, en fait, officiellement, on va ouvrir les ventes à partir du 2 avril. Alors, on est une société qui, d'habituellement, ne vend qu'aux professionnels.
Oui, c'est ça.
On passe par des réseaux de revendeurs et on vend à des professionnels, qui peuvent être des hôteliers, des hôpitaux. Et en fait, pour la première fois, compte tenu de l'intérêt du public pour ce genre de produit, les particuliers pourront acheter notre produit sur notre site internet.
Et ça va coûter combien ?
1490 euros.
Ah oui, c'est un investissement.
Oui, alors 1490 euros, c'est le prix du produit principal qui va courir jusqu'à 60 mètres carrés.
Ouais.
Et fin mai, début juin, nous aurons son petit frère qui couvrira une surface jusqu'à 20 mètres carrés et qui coûtera 490 euros.
Et il en faut pour plusieurs, dans chaque pièce pratiquement alors. Enfin, pas dans chaque pièce, c'est quoi?
En fait, au bout de quelques minutes, au bout de 10 minutes déjà, vous avez une aire qui est considérablement pollué, donc vous pouvez aussi déplacer le produit dans la pièce où vous vous trouvez.
D'accord. Bah écoutez, ça, en tout cas, c'est très, très intéressant, très prometteur, et ça peut être une solution pour les restaurants, pour les salles d'attente de médecins. C'est en plus un joli appareil assez ergonomique. Donc, on espère que le gouvernement va s'y intéresser parce que ça peut être une solution pour ouvrir même des. Mais ça peut aller aussi pour des professionnels sur des capacités plus grandes. Par exemple, si je pense à des théâtres ou des choses comme ça.
Je crois qu'il faut être raisonnable parce qu'en fait, on parle d'un volume d'air qui dépend aussi donc de la hauteur. On pourrait faire des tests en disposant plusieurs produits dans une grande espace et voir comment ils disposer s'ils arrivent à couvrir. Mais je crois qu'en matière de qualité de l'air, il ne faut pas surpromettre. Notamment derrière, il y a des enjeux de pandémie.
Très bien. Merci beaucoup Thierry Launoy d'être intervenu ce matin. Votre société, c'est la société JVD. Votre appareil, votre solution s'appelle Air Origins. Et on va suivre ça avec évidemment beaucoup, beaucoup d'attention. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Et puis bravo aux entreprises françaises, un cocorico pour ces entreprises qui innovent et qui cherchent à trouver des solutions. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. À tout de suite.